Maintenant, je vais vous présenter la conférencière de ce soir. Purificación López García est née à Madrid en 1965. Elle est microbiologiste, chercheure à l'université Pierre et Marie Curie. Thésarde à l'Universidad Autónoma de Madrid sur l'organisation génomique des micro-organismes halophiles. Elle a fait un stage post-doctoral de 5 ans sur la topologie de l'ADN chez les hyperthermophiles à l'Université de Paris Sud. Professeur assistant à l'Université d'Alicante. Depuis un an, elle est chercheure associée à l'Université Pierre et Marie Curie et elle a récemment participé à la mission océanographique phare organisée par l'IFREMER et le CNRS pour étudier les sources hydrothermales sous-marines de l'aride Est Pacifique. Ses spécialités, elle est spécialiste en biologie marine et en particulier aux micro-organismes du plancton des grands fonds océaniques. En microbiologie et plus particulièrement aux micro-organismes des environnements extrêmes concernant l'origine et l'évolution précoce de la vie sur Terre. Pour sa bibliographie, elle est l'auteur de nombreux articles dans des revues nationales et internationales. Je lui cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous débattrons avec le public pour 20 minutes. Merci.
Merci. C'est pour moi un grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour parler de la vie dans des conditions extrêmes, dans des environnements où on pensait que la vie n'existe pas il y a à peine 30 ans, des environnements qu'on croyait stériles, hostiles à la vie, dépourvus de vie, comme par exemple des régions volcaniques terrestres ou sous-marines, des grands fonds océaniques ou même la glace des régions polaires. Je vais structurer cette présentation en trois parties. Une partie d'introduction sur ces micro-organismes, parce que c'est normalement des micro-organismes qui occupent ces environnements qu'on appelle extrémophiles, amants ou amis de l'extrême, des conditions extrêmes. Comment on les a découverts, comment les étudie-t-on? Puis, dans une deuxième partie, je vais parler des environnements extrêmes, les types différents des milieux où on trouve ces organismes. Et enfin, on verra quel est le rapport entre les organismes extrémophiles et l'exobiologie. L'exobiologie ou l'astrobiologie pour les Américains étant la science qui étudie les origines de la vie et la distribution de la vie, non seulement sur Terre, mais dans l'univers dans son sens général. Pour commencer, les premiers organismes extrémophiles, micro-organismes extrémophiles qu'on a isolés, correspondent aux organismes halophiles qu'on a isolés à partir d'un environnement qu'on croyait justement dépourvu de vie, le nom, la mer morte. Et ce sont des organismes qui vivent dans des concentrations de sel très élevées, de là le nom halophile. Mais cependant, ces organismes n'ont pas trop attiré l'attention des chercheurs que jusqu'à ce qu'on a découvert beaucoup plus tard, à la fin des années 70, que ces organismes appartenaient au troisième domaine du vivant, les archées, qui a été découvert beaucoup plus tard, vers les années 70 à la fin. Et c'est vers cette époque-là que le microbiologiste américain Thomas Brock a isolé par la première fois d'abord une bactérie thermophile, Thermus aquaticus, en 1969, à partir des sources chaudes du parc national du Yellowstone au Suez. Et un peu plus tard, il isole à partir de ces mêmes environnements un organisme encore plus thermophile, Sulfolobus acidocaldarius, qui peut vivre jusqu'à 90 degrés et en plus à des pH très acides, des pH de 1 ou 5. Donc, la découverte de ces organismes thermophiles en particulier a brisé l'idée qui existait, qui était très répandue chez les biologistes et chez les microbiologistes en particulier, que les organismes mouraient tous au-delà de 80 degrés, et une idée qui existait depuis l'époque des Pasteur. On était devant des organismes qui vivaient bien en dessus de cette température. Alors, la découverte de ces organismes qui vivaient dans des environnements un peu particuliers, dans des conditions extrêmes, a déclenché une sorte de chasse aux extrémophiles à partir de ces moments-là et qui a abouti, au bout des années, à la découverte d'une diversité inouïe, inattendue des micro-organismes vivant justement dans des milieux qui semblaient hostiles à la vie. Mais avant de poursuivre dans la description de ces organismes, je voudrais quand même donner une petite définition des organismes extrémophiles, une définition un peu plus objective. Un organisme extrémophile est un organisme qui vit aux limites de la vie, c'est-à-dire aux limites pour un paramètre physico-chimique donné, entre lequel la vie peut exister. Ainsi, si on prend par exemple le cas de la température, on connaît aujourd'hui des organismes qui peuvent se développer à des températures très négatives, de presque moins 20 degrés, jusqu'à 110 ou 115 degrés. Donc, dans toutes ces fenêtres de température, on reconnaît, on classifie les organismes selon la fourchette particulière des températures dans laquelle ils se développent. On a des hygrophiles, des mésophiles, des thermophiles modérés, des thermophiles extrêmes et des hyperthermophiles. Dans chaque fourchette, on a une température optimale de croissance pour chaque organisme et puis à laquelle le taux de croissance est maximal. Et puis, que la température augmente, qu'elle diminue, il y a une diminution du taux de croissance. Bon, selon notre définition d'extrémophile, dans ces cas-là, seuls les hyperthermophiles et les hygrophiles vivant aux limites entre lesquelles la vie peut exister seraient des vrais extrémophiles. Ces organismes, il y a deux caractéristiques des environnements extrêmes très importants. D'une part, la prédominance de la vie microbienne, comme on a vu tout à l'heure. Et dans les environnements où les conditions sont les plus extrêmes et les plus limitantes pour la vie, seuls des micro-organismes, quelques micro-organismes, sont capables de se développer. Et une deuxième propriété de ces environnements est qu'il y a une diminution de la diversité. Il y a moins d'espèces au fur et à mesure qu'on s'approche des limites de la vie. Une autre chose des organismes extrémophiles importante est que ces organismes non seulement tolèrent des valeurs très extrêmes d'un paramètre physico-chimique donné, comme la température, mais ils dépendent de ces conditions pour vivre. Donc ainsi, par exemple, dans les cas des hyperthermophiles qui vivent à des très hautes températures, ils ne peuvent pas se développer en dessus de 60 ou 70 degrés. La découverte des organismes extrémophiles a été liée à la découverte des organismes du troisième domaine du vivant, les archées, et de la même manière, la découverte des archées a été également liée à la découverte de ces organismes extrémophiles, mais aussi à une sorte de révolution méthodologique et conceptuelle au sein de la science de la microbiologie, et qu'on va voir très brièvement par la suite. À différence des organismes, des animaux, par exemple, qu'on peut très bien distinguer par leur morphologie et dont on peut même retracer une histoire évolutive et faire des arbres phylogénétiques, c'est-à-dire des arbres qui expriment des relations de parenté grâce à l'évolution des morphologies au cours du registre fossile, les morphologies ne sont pas assez informatifs dans les cas des micro-organismes, et notamment dans les cas des micro-organismes prokaryotes, c'est-à-dire des micro-organismes où le matériel génétique n'est pas isolé du reste de la cellule par un noyau membraneux. Donc, on reconnaît des formes différentes chez les micro-organismes prokaryotes quand même. On a des coques, on a des bacilles, on a des spirilles, des formes parfois un peu particulières, mais ces morphologies sont assez restreintes, il y a des milliers d'espèces de coques, des milliers d'espèces de bacilles, et ne permettent pas d'établir de relations de parenté entre les micro-organismes. Ainsi les choses, il y a une idée qui est venue révolutionner. Bon, par conséquent, je reviens sur ce point, les microbiologistes s'étaient contentés d'étudier les micro-organismes isolés dans des cultures pures, soit par des méthodes d'isolation dans des milieux liquides, soit par étalement sur boîte. Et on arrivait ainsi à obtenir des cultures pures, c'est-à-dire des cultures où toutes les cellules appartiennent à une même espèce. À partir de là, on pouvait ensemencer ces micro-organismes, ces cultures pures, dans des différents milieux de cultures pour étudier les propriétés physiologiques. On pouvait ainsi classer les micro-organismes selon les capacités physiologiques de chacun, mais on ne pouvait pas établir ce qu'on appelle des classifications naturelles, c'est-à-dire des classifications basées sur des relations de parenté des organismes. Donc, ainsi les choses, je reviens sur ce point, il y a une idée qui a révolutionné complètement la phylogénie ou la classification naturelle des micro-organismes. C'est une idée émise en 1965 par Emil Zucker-Candle et le prix Nobel Linus Pauling, qui propose, dans un article connu, très connu, que dans les macromolécules, la séquence des macromolécules biologiques s'accumule de l'information évolutive. Donc, dans la séquence en nucléotide de l'ADN et de l'ARN, et la séquence, donc l'ADN étant le matériel génétique là où est codée l'information de la cellule, et dans la séquence des acides aminés, des protéines qui font partie de la cellule. Donc, on pourrait, en principe, choisir une macromolécule biologique qui soit présente dans tous les organismes vivants, en déduire la séquence, et en comparant la séquence de cette molécule dans tous les organismes du vivant, on pourrait les comparer tous. C'est ce qu'on a fait. On a choisi une molécule, une macromolécule biologique, l'ARN ribosomique C16-18S, comme carte d'identité moléculaire des organismes. Donc, et pourquoi ? Parce que cette molécule est une molécule essentielle à la cellule. Elle fait partie des ribosomes. Les ribosomes sont les machines à synthétiser des protéines pour toute cellule. Toute cellule a besoin des ribosomes. Donc, c'est une molécule qui est universelle, étant présente chez cette structure. Donc, en principe, on pouvait utiliser cette molécule comme marqueur moléculaire des organismes, en déduire la séquence et comparer les séquences des différentes molécules provenant des différents organismes pour ainsi construire ce qu'on appelle des arbres phylogénétiques. C'est des arbres où on exprime les relations de parenté entre les micro-organismes et la longueur de branche dans ce type d'arbre indique la distance évolutive, la distance génétique entre les organismes. Donc une espèce A est séparée d'une espèce E par la somme des distances des branches qui sont indiquées là. On peut exprimer ces arbres soit de cette façon-ci, sous la forme d'échelle, soit des formes radiales. En utilisant cette méthode, c'est-à-dire en utilisant l'ARN ribosomique comme marqueur universel des organismes et en déduisant la séquence de cette molécule de tout un tas très différents d'espèces, on a aujourd'hui des milliers et des milliers de séquences de différentes espèces, on a ainsi pu construire un arbre universel du vivant où on a pu représenter tous les organismes. Et grande surprise, quand on a fait ceci, on a découvert que tout un groupe d'organismes qui, par la morphologie, se ressemble beaucoup aux bactéries classiques, mais il est en fait séparé, éloigné de ces bactéries, et il semble équidistant des bactéries classiques et des eucaryotes, là où on trouve la plus grande diversité morphologique. On a les plantes, on a les animaux, donc nous on est là, on a des champignons, et puis on a tout un tas de lignées, des micro-organismes eucaryotes, donc des micro-organismes où le matériel génétique est séparé dans un noyau du reste de la cellule. Et donc, nous, on est des voisins proches aux plantes, aux champignons, mais on est très éloignés. Hein, la longueur des branches indique la distance évolutive des bactéries, mais aussi des archées. Donc, la découverte de ce troisième domaine du vivant qu'on appelle les archées, pour certains des archébactéries, a été très importante de deux points de vue. D'un point de vue phylogénétique pour étudier l'évolution, car ces organismes semblent également éloignés des bactéries que des eucaryotes, mais aussi la découverte de ces organismes a été importante parce que les premiers archées à avoir été isolés étaient des organismes justement extrémophiles qui habitaient dans des environnements où il y avait des fortes températures ou des fortes concentrations en sel ou des milieux acides. Aujourd'hui, on sait cependant que ces archées sont présentes aussi dans d'autres environnements, et elles sont présentes presque partout. Mais cependant, les archées possèdent souvent les records d'extrémophilie connus. Quel est l'intérêt des extrémophiles? Pourquoi s'est-on intéressé à ces organismes? Bien, tout d'abord, par les adaptations moléculaires, comment font les macromolécules biologiques pour résister aux défis qui imposent la haute température, le pH alcalin, etc. Les cellules sont formées par trois grands types de macromolécules biologiques. Ici, on voit une cellule qui est représentée avec le matériel génétique des différents systèmes macromoléculaires et puis les membranes. Eh bien, les premières molécules qui peuvent être affectées par ces agents environnementaux, c'est les lipides qui font partie des membranes. Et donc, les lipides et les membranes maintiennent la cellule en équilibre, en échange avec l'environnement. Donc, si les facteurs environnementaux, par exemple les hautes températures, affectent la structure des lipides qui sont normalement formés dans des bicouches. Les têtes polaires sont vers l'extérieur, la partie hydrophile, et le queue apolaire se distribue vers l'intérieur des membranes. Donc la température la haute température, par exemple, va causer une augmentation de la fluidité des lipides, ce qui va déstabiliser l'équilibre des membranes et va provoquer des pertes des ions avec des conséquences néfastes pour la cellule. Donc dans les cas des hautes températures, les lipides s'adaptent en développant une série d'adaptations, comme par exemple la formation de monocouches qui rigidifie la membrane et contrebalance ainsi l'effet de l'éther des hautes températures. Et de même pour les autres paramètres physico-chimiques environnementaux. Les cas des protéines, de la même manière, les protéines s'adaptent à des différents stress qui sont causés, induits par la haute température, par le bas pH, etc. Donc pour les hautes températures, les protéines vont essayer de développer le plus d'interactions possibles à l'intérieur de la molécule, mais aussi avec d'autres molécules, pour essayer d'augmenter la stabilité des complexes, tandis qu'à basse température, ils vont essayer, les protéines, d'augmenter la flexibilité en subissant une série d'adaptations. Et finalement, les acides nucléiques, eux aussi, doivent se protéger des agressions induites par ces paramètres physico-chimiques qui sont très extrêmes. Et normalement, des organismes qui vivent dans des environnements extrêmes, notamment par exemple les hyperthermophiles, des organismes qui subissent des fortes irradiations ultraviolettes, par exemple, possèdent des mécanismes de réparation de l'ADN très puissants qui leur permettent de résister et de s'adapter à ces environnements. Mais en plus des adaptations moléculaires qui sont très importantes et très étudiées chez ces organismes extrémophiles, et ces organismes sont aussi intéressants d'un point de vue biotechnologique parce que, à cause de leurs enzymes, les enzymes, ce sont des protéines qui réalisent, qui catalysent des réactions chimiques à l'intérieur de la cellule. On appelle les enzymes de ces organismes des extrémocymes. Ce sont, bien sûr, logiquement, pour chaque organisme, les protéines, enzymes, qui réalisent les différentes réactions métaboliques, sont adaptées à travailler dans les conditions optimales de croissance de cet organisme. Donc, dans les cas des organismes extrémophiles, ces enzymes sont adaptées à travailler dans des conditions extrêmes, ce qui peut être particulièrement intéressant pour des processus industriels particuliers. Et on verra quelques exemples. Les organismes extrémophiles sont aussi importants du point de vue de l'évolution parce que leur découverte a été liée en quelque sorte à la découverte des archées, mais aussi parce que leur découverte a permis de formuler de nouvelles hypothèses sur l'origine de la vie. Et finalement, on verra à la fin Ils ont aussi été importants du point de vue de l'exobiologie pour relancer les recherches de la vie ailleurs. On classifie les organismes extrémophiles selon les différents paramètres physico-chimiques auxquels on fait appel. Par exemple, pour la température, on a des organismes hyperthermophiles et hygrophiles, on a vu. Pour le pH, on a des organismes acidophiles qui vivent à des pH bas et alcalifiles, et ainsi de suite. On va maintenant faire un petit parcours par le type d'environnement où on retrouve ces organismes. D'abord, on commence par les hyperthermophiles. Ce sont des organismes dont la température optimale de croissance est supérieure à 80 degrés. Ce sont probablement les organismes extrémophiles les plus populaires. Et ce sont aussi les organismes, les extrémophiles, pour lesquels on voit mieux la propriété qu'on avait définie tout à l'heure des organismes extrémophiles, d'une diminution de la diversité au fur et à mesure qu'on atteint les limites, les conditions vraiment limitantes pour la vie. Ainsi, sur ce thermomètre du vivant, on voit que dans les basses températures, on a toute une grande diversité d'organismes qui peuvent se développer, qui appartiennent aux trois domaines du vivant, archées, bactéries, eucaryotes. Mais les eucaryotes n'arrivent pas à vivre au-delà des 60 degrés. Seuls quelques champignons, quelques eucaryotes unicellulaires arrivent à vivre jusqu'à 60-60 degrés. En dessus de cette température, on trouve seulement des archées et des bactéries thermophiles et hyperthermophiles. Mais les bactéries s'arrêtent également vers les 90-95 au plus degrés. En dessus de cette température, c'est le territoire des archées. On connaît seulement des archées hyperthermophiles capables de vivre au-delà de 100 degrés et jusqu'à 110-115 degrés qu'on va voir. Le type d'environnement où on trouve ces organismes, ce sont des environnements en relation avec les vulcanismes. Donc, les premiers types d'environnement où on les a isolés, c'est des sources chaudes continentales. Ici, bon, il y a plusieurs sources de geysers du parc national de Yellowstone aux US. On les trouve également au niveau des solfatares des régions volcaniques, un peu partout dans le monde, en Islande, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Italie. Donc là, c'est la Nouvelle-Zélande. Et on voit, c'est souvent des endroits où il y a des émissions de gaz qui sont toxiques pour nous, mais pas pour les micro-organismes qui y vivent. Donc on doit utiliser des masques. Là, vous voyez un chercheur en train de récolter des échantillons à partir de la boue bouillante. Mais aussi, l'autre grand type d'environnement où on trouve ces organismes correspond aux sources hydrothermales sous-marines qui sont situées en association avec les dorsales, les grands systèmes des dorsales océaniques. On trouve quelques sources en surface, notamment en Islande et puis également près de l'Italie et de la Grèce. Mais la plupart de ces sources sont à grande profondeur, en association entre 1500 et 3000 mètres de profondeur, en association avec les grandes dorsales, notamment elles ont été plus étudiées au niveau de l'aride médio-atlantique et aussi au niveau de l'aride pacifique. On trouve également au niveau de l'océan Indien. Dans ces sources sous-marines ont été découvertes en 1977 par la première fois grâce au submersible américain Alvin qui a vu qui a pu mettre en évidence l'existence de ces sources, à côté desquelles on trouvait parfois des grandes colonies des animaux. Dans ces cas-là, c'est le ver géant Riftia pachyptyla, vivant à proximité des sources. Deux ans plus tard, on a trouvé les fumeurs noirs, des sources où les fluides sortent à des très fortes températures, jusqu'à 350-400 degrés. Dans ces sources hydrothermales sous-marines, on retrouve deux types en fait, de sources. Il y a des fumeurs noires qui sont des sources où le fluide est très chaud, jusqu'à 350-400 degrés, mais on a aussi des fumeurs des diffuseurs ou des suintements froids où la température des fluides est beaucoup plus basse du fait qu'il y a un mélange avec l'eau de mer qui est froide et qui pénètre les premières couches. Ce fluide hydrothermal sortant, Il est très réduit, chargé dans deux gaz qui sont toxiques pour nous, hein, l'H2S, le méthane, mais aussi avec beaucoup de métaux, lourds provenant du lessivage des couches basaltiques. Alors ces gaz qui pour nous sont très toxiques sont très utiles pour le développement des communautés de micro-organismes qu'on dit chimolito-autotrophes, c'est-à-dire c'est des micro-organismes qui sont capables de fabriquer leur propre matière organique à partir de la matière inorganique, du CO2, et qui en plus obtiennent leur énergie pour vivre à partir des réactions d'oxydoréduction qui font intervenir de composés justement réduits de fluides. Et ces organismes sont très importants ici parce qu'ils sont à la base de la chaîne trophique, ils font la production primaire et sont à la base de la chaîne trophique d'un écosystème qui est complètement indépendant de la lumière solaire et qui nourrit d'ailleurs les animaux qui se développent à côté. Et c'est justement au niveau d'une cheminée de l'aride médio-atlantique qu'on a isolé l'organisme le plus thermophile connu jusqu'à présent, c'est Pyrolobus fumari, une archée, qui peut vivre jusqu'à des températures de 113 degrés. Ces organismes sont, bien sûr, les archées qui vivent à plus de 100 degrés, on les a isolés justement à partir des sources hydrothermales sous-marines, des grandes profondeurs, parce qu'une condition qui est indispensable pour la vie est l'existence de l'eau à l'état liquide. Et c'est ici qu'on peut trouver l'eau en état liquide à des températures plus importantes que 100 degrés, parce qu'il y a tout le poids de toute la colonne d'eau par le fait de la pression. Ces organismes sont en général aussi anaérobies. C'est des organismes qui sont tués par la présence d'oxygène, le fluide étant très réduit, ils n'y contiennent pas d'oxygène. Voici quelques exemples des différentes archées hyperthermophiles. On a des archées comme Sulfolobus acidocaldarius, qui a été la première à être mise en culture et isolée. C'est des photos des microscopies électroniques. Vous voyez des organismes qui ont été isolés à partir des sources continentales, mais aussi des organismes qui ont été isolés à partir des sources hydrothermales sous-marines, en particulier cet organisme, Pyrococcus abyssi, est très connu en France parce qu'il a été isolé par la première fois par une équipe française, l'équipe de Daniel Prière, qui était à l'époque à Roscoff, et puis parce qu'il est devenu un modèle pour étudier la biologie de ces organismes, et son génome est complètement séquencé. Il a été séquencé par le génoscope. Voici quelques exemples de bactéries hyperthermophiles, mais moins thermophiles que les archées. C'est Thermotoga maritima, qui est caractérisée par la présence de cette capsule, cette toga, et puis Aquifex pyrophilus. Quand vous voyez le nom de ces organismes, font souvent appel au type d'environnement où ils se trouvent. Et voilà, comme là où il y a la vie, il y a toujours les parasites de la vie, donc les hyperthermophiles ne sont pas ne sont pas exclus de cette parasitisme, et on trouve également des virus qui parasitent ces organismes hyperthermophiles. Donc vous voyez des photos des microscopies électroniques, on a des virus qui sont filamenteux, des virus qui possèdent la forme des citrons. Ils sont encore très peu connus, ils commencent à être étudiés, mais on ne les connaît pas bien. Mais rassurez-vous, cet hiver, des virus ne nous feront rien parce qu'on est trop éloigné dans la fourchette thermique. Les organismes hyperthermophiles sont aussi importants du point de vue de la biotechnologie. Ils peuvent être utilisés pour décontaminer des polluants, des eaux résiduelles de l'industrie qui sortent à haute température. Certaines de ces enzymes sont ajoutées aux détergents pour faire la lessive à haute température. Mais probablement l'application la plus importante concerne l'utilisation de certains ADN polymérases de ces organismes qui sont thermophiles et thermostables pour la réaction de PCR, la réaction en chaîne de la polymérase, qui est une technique qui permet amplifier de l'ADN. Donc on peut obtenir des grandes quantités d'ADN à partir des quantités très très faibles. Et cette technique a été une révolution en biologie moléculaire. On l'utilise aujourd'hui dans presque tous les laboratoires de biologie moléculaire. On l'utilise dans les hôpitaux et même la police s'en sert. C'est avec cette technique qu'on va pouvoir détecter à partir d'un cheveu le coupable d'un crime, par exemple. À l'opposé des autres températures, on a des organismes sycrophiles qui, eux, ils aiment le froid. Ils se développent à des températures même inférieures à 5 degrés ou à 0 degrés. Et comme dans les cas des organismes qui vivent à haute température, les facteurs limitants ici sont la disponibilité de l'eau à l'état liquide. Mais on peut trouver de l'eau à l'état liquide à des températures inférieures à 0 degrés, par exemple l'eau de mer, ou par exemple l'eau qui est sous les glaciers, où l'eau est maintenue en état liquide par l'effet de la pression. On trouve ces organismes dans les grands fonds océaniques. La température moyenne de l'océan en profondeur est de 2 degrés. Donc on peut, ici, vous voyez, il y a des chercheurs qui remontent de l'eau des grandes profondeurs, mais on le retrouve également dans la neige des montagnes, là où vous voyez parfois des taches rougeâtres. Ça correspond à la croissance des algues rouges. On les retrouve également au niveau dans la glace de la banquise. Hein. Souvent, ils se développent au niveau des petites crevasses où l'eau salée s'accumule et fait des saumures qui abritent ces organismes. Bien sûr, un des environnements les plus étudiés par rapport à ces organismes sycrophiles, c'est l'Antarctique, et où on étudie notamment les calottes de glace, les carottes de glace, vous voyez là. Et ces organismes peuvent se développer dans la glace. Ici, vous voyez une coupe d'un morceau de glace où il y a une couche à la surface d'organismes. Dans ces cas-là, c'est des cyanobactéries. Puis, on trouve des algues vertes. On différencie ça par la couleur. Et puis, cette couleur indique la présence d'autres micro-organismes. C'est des micro-organismes hétérotrophes qui vont profiter de la fixation de la matière organique par la photosynthèse qui est réalisée au niveau de ces couches supérieures. C'est justement au niveau du pôle sud où on a détecté le record d'activité microbienne à basse température de moins 12 à moins 17 degrés. Voici des exemples d'organismes sycrophiles. Et ici, je vous montre quelques animaux. En réalité, ce n'est pas des organismes sycrophiles, c'est des organismes, dans ces cas-là, sycrotolérants. Parce que, par exemple, l'ours, il va avoir des températures à l'intérieur de 37 degrés. Donc, en fait, ce n'est pas une justesse des micro-organismes sycrophiles. Par contre, les micro-organismes, eux, ils sont sycrophiles, ils ne maintiennent pas une homéostase de la température. Des organismes halophiles, ce sont des organismes qui aiment les fortes concentrations en sel. Ils peuvent vivre jusqu'en saturation. On les retrouve dans les milles de sel. On les retrouve très souvent dans des salines côtières, comme vous voyez là, où l'eau de mer passe d'étang en étang. Elle se concentre jusqu'à que le sel précipite. Et la couleur rouge des différents étangs correspond à la couleur des pigments de la paroi de ces organismes. Organismes qui parfois peuvent adopter des morphologies très bizarres. Dans les étangs les plus salés, on peut observer des cellules carrées, comme c'est le cas là. Et en coupe, c'est une photo des microscopies électroniques de transmission. Là, on voit qu'effectivement, elles sont des cellules très, très aplaties. Des organismes alcalophiles, c'est des organismes qui aiment les pH alcalins. Et ils vivent en dessus de pH 9. Et c'est des organismes qui pourraient très bien résister l'eau de Javel. On trouve ces organismes souvent en association avec des environnements hyper salés, très salés, comme c'est le cas de lacs de type natron qu'il y a au nord de l'Afrique. Donc notamment le lac Natron, c'est de là où les Égyptiens obtenaient les natrons pour embaumer les cadavres. Mais on trouve également des organismes alcalophiles dans d'autres types de lacs qui ne sont pas forcément hyper salés et où ils peuvent former des grandes structures de type stromatolite qui peuvent parfois être de plusieurs mètres de hauteur. Les organismes acidophiles, au contraire, eux, ils vivent à des pH très bas, très acides. Certains peuvent vivre sans problème dans l'acide sulfurique et ils se trouvent souvent en association avec des régions des mines. Là, c'est une rivière acide au sud-est, au sud-ouest de l'Espagne qui, dont la couleur est due au fer. Et qui a un pH de 2 en moyenne, mais aussi on trouve ces organismes dans des sources volcaniques qui sont souvent aussi acides. L'organisme le plus acidophile connu est Picrophilus oshimae. Picrophilus, ça veut dire amant de l'acide, qui a été isolé d'une solfatare au Japon et qui a un pH optimal de 0,7 et peut vivre tranquillement au pH 0. Et voici d'autres exemples d'organismes acidophiles. Ces organismes sont aussi utiles d'un point de vue biotechnologique. Notamment, on les utilise pour faire la lessivation des métaux à partir des minéraux. Alors, ce qu'on fait, on arrose des piles de minéraux avec de l'eau acide qui contient ces micro-organismes qui, eux, ils se chargent de lessiver et de solubiliser les métaux qui sont présents dans les piles de minéraux. Mais on les utilise également pour faire la désulfuration du charbon. Les organismes barophiles, eux, ils aiment les fortes pressions. Parfois, on les appelle aussi organismes piézophiles. Ce sont des organismes qu'on retrouve dans notre planète au niveau des grands fonds océaniques, jusqu'à presque 11 000 mètres de profondeur, qui correspond à la fosse des Mariannes. Et c'est des environnements qu'on étudie à l'aide des submersibles. Vous voyez là les nautiles, les submersibles tripulés de l'Ifremer. Mais on a ces organismes aussi vivant dans la croûte terrestre sous le poids du sol océanique et continental, comme on verra plus tard. Les organismes sérophiles, ce sont des organismes qui vivent dans des conditions manque d'eau. C'est des organismes qu'on trouve dans des régions désertiques, souvent formant des pellicules ce qui est connu sous le nom de vernis du désert, c'est des micro-organismes qui se développent. Souvent, on voit des lichens. Ces organismes pour se protéger, ils peuvent vivre à l'intérieur des cailloux. C'est le cas ici. Ça leur permet d'une part de se protéger contre la perte d'eau, mais souvent, comme c'est des environnements aussi très irradiés, très exposés à l'irradiation ultraviolet du soleil, ils se protègent aussi des radiations. Et là, on voit, c'est du gypse, et à l'intérieur de ce gypse, il y a des couches colorées, et ces couches correspondent à des micro-organismes. Dans ces cas-là, c'est des algues, où on trouve parfois des cyanobactéries vivant à l'intérieur des cailloux. Des organismes radiotolérants, ce sont des organismes qui supportent de fortes doses de radiation. Alors, le record aujourd'hui est maintenu par cet organisme-là, Deinococcus radiodurans, qui est une bactérie. C'est une bactérie qui est protégée normalement contre la désiccation, mais qui, à cause de cela, a des puissants mécanismes de réparation de l'ADN, et ça le permet, du coup, de résister des fortes doses d'irradiation. Et donc, on a pu isoler cette bactérie, par exemple, de Tchernobyl. On l'a isolée également de l'Antarctique, sous le trou d'ozone. On a également des organismes très radiotolérants qui sont isolés à partir des sources hydrothermales sous-marines, parce que parfois, certaines de ces sources, pas toutes, émettent aussi des radiations. On a également des organismes métallotolérants. Les organismes métallotolérants résistent de fortes doses des métaux et des métaux lourds. Pour nous, les métaux lourds sont très toxiques, mais ici on voit, bon, il y a des micro-organismes vivants, là il y a du fer surtout, ou du cuivre. Là c'est des cristaux de sulfate de cuivre, donc on voit des organismes vivants là, ou dans des seaux riches en or. Nous avons fait un petit parcours pour différents types d'environnements extrêmes sur Terre, il nous manque encore un environnement qui n'est pas à la surface et qui correspond à la biosphère souterraine. On s'est rendu compte que la vie existe aussi dans la croûte terrestre. On retrouve de la vie microbienne, des micro-organismes dans les sous-sols océaniques et continentaux, dans des dépôts et des mines profondes, des dépôts de sel et des mines profondes, dans des aquifères profonds et dans des grottes, oui. Et les micro-organismes dans ces environnements-là se trouvent dans des petites crevasses qu'il y a là, et souvent dans des quantités, dans des densités très faibles. Et comme c'est des environnements où les nutriments sont en général en manque, c'est des organismes dont on pense que le taux métabolique est très très bas, très faible, et que peut-être ils se divisent une fois par mois ou une fois par an, très très lentement. Ce sont des organismes en général chimiolito-autotrophes, donc comme je disais avant, des organismes qui fabriquent leur propre matière organique et qui utilisent des réactions faisant d'obtention d'énergie qui font intervenir des composés qu'on peut trouver dans la croûte, des composés inorganiques. On a isolé des micro-organismes provenant de jusqu'à 5 km de profondeur dans la croûte. Là, vous avez un exemple, Bacillus infernus, qui a été isolé d'une profondeur de 2,7 km. Parfois, on n'arrive pas à isoler et à cultiver ces micro-organismes au laboratoire, mais on peut arriver à les voir, c'est le cas-là, au niveau du vert basaltique de sous-sol océanique. Là, les micro-organismes sont colorés avec un colorant spécial, spécifique, en rouge. On peut le voir, mais on n'arrive pas à les cultiver. On les a également isolés à partir de grottes profondes. En fait, la vie en profondeur semble limitée par la haute température. Au fur et à mesure qu'on pénètre en profondeur, la température augmente et on a détecté des vies et des traces de vie jusqu'à des profondeurs qui sont compatibles, qui ont des températures compatibles avec la vie, 110 degrés. Un autre sujet qui est intéressant du point de vue de la résistance de la vie à long terme et de la longévité est justement la survie dans des conditions extrêmes. Et donc jusque-là, on a étudié des différences, on a vu des différents organismes extrémophiles qui se développent dans ces conditions-là. Mais quand les conditions deviennent trop défavorables, beaucoup d'organismes sont capables de former des formes de résistance. C'est le cas, par exemple, de plusieurs bactéries qui fabriquent des spores et d'autres organismes rentrent dans des formes de dormance, ils s'endorment, mais sous ces formes-là, ils peuvent résister très longtemps des conditions vraiment très défavorables. Et puis, quand les conditions deviennent favorables à nouveau, ils se développent. Sous ces conditions-là, ils peuvent même résister, c'est l'exemple-là, l'exposition à l'espace extérieur. On a fait des expériences où on a exposé des bactéries halophiles qui se retrouvent à l'intérieur des cristaux de sel ou des spores pendant 2 semaines à l'espace extérieur, donc au rayonnement cosmique, et ces organismes ont résisté cette exposition. Les deux façons de conserver à long terme meilleures qu'on connaisse sont d'une part, la dessiccation. Donc, comme je vous disais, certains organismes halophiles forment le centre de nucléation des cristaux, d'où la couleur rouge, hein, et peuvent résister comme ça des années. Après, on remet les cristaux dans un milieu de culture, ces micro-organismes repartent. Et le froid, la cryopréservation. Donc, bon, là, les microbiologistes savent depuis très longtemps la meilleure façon de conserver les différentes souches qu'on a au laboratoire, c'est de les congeler à moins 80. Après, un mois ou un an plus tard, on a besoin encore de la même souche. On va au frigo, on récupère les cellules, on les met en culture et ça repart. Eh bien, la nature, elle aussi, elle utilise le froid pour conserver. Et là, voici un exemple, c'est un mousse qu'on a fait vivre, qu'on a fait pousser après, à partir du permafrost. Le permafrost, c'est le sol gelé en permanence. Et bon, ça date d'il y a 40 000 ans. Donc, voici un exemple. J'arrive à la dernière partie de cet exposé qui concerne les rapports entre les extrémophiles et l'exobiologie. La découverte de ces extrémophiles a permis de formuler de façon plus sérieuse la question de l'existence de la vie ailleurs, peut-être dans l'univers. Il est certain, en tout cas, que plusieurs des organismes extrémophiles qu'on trouve aujourd'hui sur Terre, sur certains environnements extrêmes, pourraient se développer dans des conditions qui existent aujourd'hui dans d'autres planètes. Donc ça, d'une part. Et dans notre système solaire, les deux candidats plus favorisés pour étudier une éventuelle existence de vie, c'est d'une part Europa. Europa, c'est un satellite de Jupiter qui est très froid et qui possède une calotte de glace à la surface sous laquelle un océan d'eau liquide pourrait exister. Donc la condition indispensable pour la vie telle qu'on la connaisse, l'eau liquide, serait présente. Dans ces cas-là, on pourrait penser qu'il n'est pas impossible qu'une vie psychrophile se développe. Et l'autre candidat est Mars. Mars, qu'aujourd'hui, on sait à la surface, la planète rouge, qu'on sait à la surface complètement stérile, mais dont on pense qu'à l'intérieur, il y a de l'eau. Et comme en allant en profondeur, la température augmente, on pense qu'à une certaine profondeur, cette eau pourrait être en état liquide et il pourrait y avoir des micro-organismes qui se développent à l'intérieur de cette croûte martienne. Même si la vie n'existe pas sur Mars aujourd'hui, c'est une possibilité, elle aurait pu exister dans le passé. Mars, au début de son histoire, étaient très très semblables à celles de la Terre. Après, comme c'est une planète avec moins de masse, elle a perdu l'atmosphère. Donc ça ne serait pas impossible de penser que la vie s'est originée aussi sur Mars. Entre les organismes extrémophiles qui ont plus réveillé le débat sur les origines de la vie, on a les hyperthermophiles. Je vous rappelle brièvement l'histoire de la Terre jusqu'à nos jours. La Terre s'est formée il y a environ 4,6 milliards d'années. Les premiers organismes sont nés, il y a des traces, il y a à peu près... on pense que la vie s'est formée il y a à peu près 3,8-3,9 milliards d'années. Et puis, il y a toute une évolution où on pense qu'on trouve des organismes, des fossiles prokaryotes d'il y a à peu près 3,5 milliards d'années. La nature de ces fossiles est aujourd'hui très controversée et très débattue. On pensait que c'était des cyanobactéries. Il est possible que ce soit des organismes prokaryotes thermophiles. Ça, le débat est toujours ouvert. Les organismes eucaryotes apparaissent beaucoup plus tard. L'oxygène, au début de son histoire, la Terre n'a pas d'oxygène dans l'atmosphère. C'est seulement il y a 2,1 milliards d'années que l'atmosphère devient riche en oxygène. Nous, on apparaît à la fin de l'échelle. Il y a presque aujourd'hui, il y a 2 millions d'années seulement. Bien. Le modèle le plus classique pour expliquer l'origine de la vie est celui d'Oparin Haldane. C'est un modèle qui préconise une origine de la vie à basse température et hétérotrophe, c'est-à-dire les premiers organismes vivants se seraient développés au niveau des mares de surface ou à partir des molécules organiques simples qui se seraient formées et grâce à la synthèse prébiotique favorisé par des décharges électriques et des rayonnements ultraviolets. À partir de ces molécules organiques simples, on aurait eu la formation des macromolécules, l'ARN, les protéines, plus tard l'ADN. À partir de là, la formation des premières cellules et puis l'évolution de la vie. Cependant, la découverte des hyperthermophiles a permis l'épanouissement d'une idée de l'idée d'une origine chaude et autotrophe de la vie. La vie se serait formée cette fois-ci dans des environnements similaires aux sources hydrothermales sous-marines qu'on observe aujourd'hui au fond des océans. Et les premiers organismes vivants auraient été des organismes chimiolito-autotrophes, donc qui fabriquent leur matière organique et qui obtiennent leur énergie à partir des composés réduits, tels qu'on observe aujourd'hui. L'idée d'une origine chaude et autotrophe de la vie est favorisée par trois types d'arguments. D'une part, des arguments géologiques, car la Terre était probablement beaucoup plus chaude à l'époque où la vie s'est formée. La Terre venait de s'accréter, donc logiquement, au début, elle était beaucoup plus chaude et petit à petit, elle s'est refroidie. Autre type d'arguments sont des arguments de nature phylogénétique, car certains sauteurs ont mis la racine de l'arbre du vivant dans la branche des bactéries. Alors, si la racine est positionnée là, et on trouve que toutes les lignées qui sont plus près de la base correspondent à des organismes hyperthermophiles, et ça voudrait dire que l'ancêtre commun de tous les organismes était lui-même un hyperthermophile. Bon, le problème là est qu'on n'est pas sûr que la racine soit là, c'est simplement une hypothèse par l'instant. Et le troisième type d'argument est le type de métabolisme qu'on trouve aujourd'hui chez les organismes hyperthermophiles. Normalement, on trouve toute une variation de réactions d'obtention d'énergie qui justement font intervenir ces composés qu'on trouve au niveau des sources hydrothermales, par exemple, et qui pourraient soutenir une origine chimio-autotrophe de la vie. Et entre ces composés, on voit souvent apparaître le fer et le soufre, et ce qui nous rappelle une idée, une hypothèse proposée par Gunther Wachterhauser, en 1988, qui disait que les premières formes de vie auraient tiré leur énergie, que la vie serait née sur des surfaces et que les premiers êtres vivants auraient tiré leur énergie des réactions de ce type-là, sulfure de fer plus AZS, on aurait la formation d'hydrogène plus la pyrite, le sulfure de fer. Cependant, cette idée est d'une origine chaude et autotrophe de la vie est très controversée. Et il y a des opposants. Par exemple, il y a des auteurs qui proposent que le dernier ancêtre commun était un organisme de type eucaryote. Et comme les organismes eucaryotes ne sont pas hyperthermophiles, ne peuvent pas l'être, alors la vie se serait formée à plus basse température. D'autre part, on a d'autres auteurs qui pensent que l'origine de la vie aurait pu être à basse température, mais tout en ayant un dernier ancêtre commun hyperthermophile, parce que seulement les organismes hyperthermophiles auraient pu résister dans les grands fonds sous-marins, dans les sources hydrothermales, aux grands bombardements de météorites que la Terre a souffert au début de son histoire et qui auraient presque stérilisé la planète entière, sauf justement ces sources hydrothermales sous-marines. Finalement, à part des hyperthermophiles, il y a d'autres extrémophiles et d'autres types d'environnements extrêmes qui sont d'importance pour la recherche en exobiologie. Il y a d'une part les micro-organismes sycrophiles et les endroits très froids comme l'Antarctique ou le permafrost, le sol gelé en permanence, par la possibilité de la vie en Europa. Des régions d'évaporites, des évaporites ou des milieux hypersalés, car ces types de roches, les évaporites, c'est des roches qui se forment par évaporation, et préservent très bien les traces des vies passées. Et on a détecté sur Mars la présence des structures qui ressemblent à des évaporites. Donc, si la vie a existé sur Mars et qu'elle s'est perdue, il est possible qu'elle ait laissé des traces fossiles, justement, au niveau de ces types de formations. Donc, c'est un endroit candidat à échantillonner quand on arrivera sur Mars. Et finalement, bien sûr, la vie de la subsurface, la vie en profondeur, dans la croûte, car on pourrait trouver ces formes de vie dans des planètes comme Mars. Donc les extrémophiles, et je vais finir là, nous ont montré quelles sont les limites de la vie sur Terre, mais nous ont ouvert également la question sur la vie ailleurs. Merci beaucoup de votre attention.
Est-ce que l'on a trouvé des traces de vie sur les météorites, d'une part. D'autre part, y a-t-il un livre que l'on peut consulter à propos de tout ce que vous venez de nous dire?
Oui. D'abord, la question de la vie sur les météorites. Ça fait 2 ou 3 ans, il y a eu, et dans la presse c'est apparu, qu'il y avait des traces sur une météorite martienne, ALH, je ne sais pas quoi, il y a plusieurs numéros, et parce qu'on a vu des structures qui ressemblaient des microfossiles des organismes. Ces structures étaient quand même très très petites, et en fait, on s'est aperçu par la suite que ces structures peuvent être aussi formées de façon inorganique dans des conditions simulées. Donc, par la morphologie, on ne peut pas dire que ces structures qu'on a retrouvées sur cette météorite martienne correspondent à des vrais micro-organismes. De toute façon, il y a eu plus tard des personnes qui ont dit que peut-être on avait des traces de la vie parce qu'on avait trouvé sur cette météorite de la magnétite, qui est un minéral qui peut se former sur Terre par certaines bactéries. Et donc, on pensait que ça pouvait être une trace de vie laissée par des supposées bactéries martiennes. Cependant, à nouveau, là, on a retrouvé plus tard une façon de faire de la magnétite qui n'est pas biotique, donc abiogénique, dans des conditions simulées des laboratoires. Donc, à nouveau, on n'est pas sûr que la magnétite qu'il y a sur cette météorite martienne soit un indicateur de vie ailleurs. Donc, par l'instant, on ne sait pas. Et pour consulter, deuxième question, c'était si on pouvait trouver des informations sur ce qui concerne les extrémophiles et l'exobiologie. Oui, sur l'Internet, on peut trouver en allant sur les sites de la NASA, par exemple. Donc, je ne connais pas l'adresse par cœur, mais ça doit être quelque chose comme nasa.org, ou sinon, vous pouvez regarder ça par un moteur de recherche. La NASA a des programmes spécifiques de vulgarisation sur les environnements extrêmes et sur l'exobiologie en général. Et je crois que l'ESA, qui est l'équivalent de la NASA, mais en Europe, développe aussi petit à petit, en imitation de la NASA, ce type de site sur l'exobiologie et les environnements extrêmes.
Oui, dans la mesure où les extrémophiles sont hétérogènes, qu'il y a d'une part des archéobactéries, d'autre part des posibactéries, et dans la mesure où on les considère probablement à juste titre comme les premiers êtres vivants, est-ce qu'il n'est pas abusif de continuer à parler au singulier de l'origine de la vie alors qu'elle peut avoir au moins une double origine? Et d'autre part, est-ce qu'il n'est pas anthropocentrique de parler d'extrémophile alors que c'était l'environnement normal au début de l'histoire de la vie et c'est plutôt nous qui sommes des extrémophiles?
Là, je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça que j'ai utilisé. Donc, je réponds d'abord à la deuxième question. Et effectivement, dans ce sens-là, on serait des extrémophiles. Mais j'ai utilisé une définition d'extrémophile qui est plus neutre et qui n'est pas trop anthropocentrique. C'est-à-dire, extrémophile, c'est la vie aux limites entre lesquelles la vie peut exister pour un paramètre physico-chimique donné. Oui, historiquement, mais là, je me place sur la fourchette de ces paramètres. Sinon, je suis tout à fait d'accord, c'est un concept, probablement, c'est nous les extrémophiles, on est des caractères dérivés. Quoique, c'est un sujet très débattu, il y a des gens qui pensent à l'inverse. Et donc, la première question, c'était quoi? On pense quand même qu'on dérive, les trois domaines du vivant dérivent d'un dernier ancêtre commun. Il se peut qu'il y ait eu d'autres lignées, mais probablement ces autres lignées ont disparu. Et pourquoi on dit ça? Parce que les systèmes moléculaires qui sont à la base des trois organismes du vivant portent un dénominateur commun. Donc on a tous de l'ADN, on a tous des protéines qui sont impliquées dans la traduction, dans la transcription, dans des processus qui sont vraiment au cœur de la cellule. Et ces protéines sont homologues, c'est-à-dire ont le même ancêtre commun dans les trois organismes du vivant. Donc la diversification de ce qu'on voit aujourd'hui s'est fait après. Il se peut qu'il y ait eu d'autres lignées, mais on ne les voit pas aujourd'hui. Et ce qu'il y a eu aussi au cours de l'évolution, c'est beaucoup de transferts horizontaux de gènes. Ça peut masquer tout ce qu'on peut reconstruire dans le passé.
Oui, les endroits à la surface de la Terre où règnent des conditions extrêmes sont des îlots très séparés les uns des autres. Est-ce que les organismes qui vivent dans ces îlots ont une origine commune? Et dans ce cas, est-ce qu'on peut imaginer qu'à la surface de la planète, il existe des spores qui sont prêts à se développer, qui vivent en état de dormance et qui sont prêts à se développer lorsque les conditions deviennent difficiles?
Oui. Les organismes qu'on trouve dans ces différents environnements extrêmes sont souvent très apparentés. Et en ce qui concerne la diversité des micro-organismes en général, qu'ils soient extrémophiles, qu'ils soient pas extrémophiles, il semblerait plutôt que les micro-organismes sont ubiquitaires et que c'est l'environnement qui sélectionne. Et en fait, quand on analyse de façon moléculaire ces organismes, par exemple au niveau des sources hydrothermales sous-marines, on trouve parfois presque la même séquence dans l'Atlantique et dans le Pacifique. Donc ça veut dire qu'en fait, ces organismes voyagent, et ils sont un peu partout, et quand ils trouvent les bonnes conditions pour se développer, ils se développent. Et donc dans ce sens-là, oui, il y a une diffusion... sous forme des spores. Dans les cas des organismes hyperthermophiles, ils ne se développent pas en dessus des 80 degrés, par exemple, mais à 2 degrés, ils voyagent tranquillement. Au froid, ils vont très bien. Ils peuvent résister pendant des années. Au laboratoire, c'est ça, on peut les cultiver à 100 degrés, par exemple. Quand on ne veut plus travailler avec eux, on les garde dans les frigos à 4 degrés et ça résiste pendant très, très longtemps. Après, on les remet en culture. Donc, ils voyagent comme ça par les courants et se développe à nouveau quand il trouve les bonnes conditions.
Bonjour. Je voudrais savoir, on sait que l'eau est indispensable pour le développement de la vie sur la Terre. Et c'est pourquoi, lorsqu'on cherche une forme de vie extraterrestre, on cherche d'abord la trace d'eau. Mais est-ce qu'on peut imaginer une forme de vie qui soit possible de développer sans l'eau?
On pourrait l'imaginer, mais on ne saurait pas comment l'identifier. Le problème est que, effectivement, pour la vie qu'on connaît, l'eau en état liquide, elle est indispensable. Ainsi que d'autres caractéristiques, une chimie basée sur le carbone, par exemple. Et on peut imaginer une vie basée sur d'autres choses, mais peut-être on ne saurait pas la reconnaître. Donc, philosophiquement, ça serait possible, mais dans la pratique... on est limité à une observation expérimentale sur des choses qui se ressemblent à ceux qu'on connaît. On est sûr, si on trouve l'eau et qu'on trouve des formes qui se ressemblent à une vie sur Terre, que ça peut être de la vie. Mais si on voit autre chose, quels sont les critères? On ne sait pas. Peut-être on va le voir tout de suite si jamais on a des échantillons qui viennent d'ailleurs, mais par l'instant, ça semble important. En plus de cela, l'eau a des avantages importants, très importants, comme solvant. Et donc, on pense qu'effectivement, une vie dans l'eau est plus probable que dans d'autres solvants, par exemple, parce que l'eau a des avantages très importants du point de vue chimique.
Si j'ai bien compris, il y a une faible diversification de ces bestioles au fur et à mesure que les conditions deviennent de plus en plus extrêmes. Alors, qui dit faible diversification? Il n'y a pas de bestioles adaptées à très forte pression, très grande salinité, ou éventuellement très grande basicité, etc. etc. Donc, on peut penser que cette diversification qui est faible correspond à une hyperspécialisation et par conséquent qu'il est plus, disons, pour faire simple, il est mieux de concevoir un arbre qui serait très loin de dont les branches qui comment dirais-je, qui ont des spécialisations aussi poussées occupent vraiment le sommet. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on pourrait penser, c'est que faible diversification, hyper spécialisation sont plutôt en faveur de quelque chose qui est terminal plutôt que quelque chose qui est à la racine de l'arbre.
Je pense qu'il faut donner à ça une dimension écologique. C'est des organismes, en effet, dans certains cas, hyper spécialisés, mais cela, d'une part, ne veut pas dire que ça soit hyper spécialisé pour un seul paramètre physico-chimique. Ça, c'est pour nous, pour les étudier, qu'on les divise comme ça. Mais en général, les extrémophiles sont pluri-extrémophiles et résistent plusieurs conditions extrêmes à la fois. Donc on trouve des hyperthermophiles acidophiles, mais ça dépend de l'environnement. Dans les grandes profondeurs, on a de l'océan par exemple, on a des organismes qui sont sycrophiles parce qu'il fait froid, mais barophiles parce qu'ils résistent à les fortes pressions, ou on peut avoir des organismes barophiles et hyperthermophiles dans les sources hydrothermales sous-marines, où on peut avoir des organismes acidophiles qui sont en plus métallotolérants, qui sont en plus exposés à des fortes radiations UV, donc qui résistent à la radiation. Donc, normalement, en général, les organismes extrémophiles tolèrent et supportent et dépendent de plusieurs conditions physico-chimiques à la fois. Et c'est des organismes qui sont très spécialisés parce qu'ils se développent dans ces conditions environnementales, mais ils sont capables également d'évoluer. Et ce qu'il faut considérer, c'est que ce sont des micro-organismes, les prokaryotes en général, qui échangent des matériels génétiques très facilement et que même s'ils sont perdus de gènes qui leur permettent de vivre dans d'autres conditions, s'ils sont en manque parce que l'environnement change, ils peuvent le prendre d'autres espèces proches ou même éloignées et s'adapter à des nouvelles conditions. Donc dans ces cas-là, la capacité à évoluer des micro-organismes prokaryotes en général est très importante parce qu'ils peuvent acquérir de l'information d'autres espèces qui vivent dans d'autres environnements et les adapter à leurs besoins.
Oui, moi, c'était sur la sophistication des espèces qu'on rencontrait, notamment dans les sources chaudes. Je me rappelle de reportage qui avait passé à la télévision sur ce sujet-là, et on voyait qu'effectivement vous avez beaucoup insisté sur les archées et sur les bactéries et sur les micro-organismes qui sont capables de vivre en conditions extrêmes. Mais enfin bon, donc là visiblement on avait des animaux un peu plus sophistiqués que des archées ou des bactéries, on avait réellement des poissons. Oui. On voyait des poissons, on voyait des vers, des annélides, on voyait des éponges. Oui. On voyait toute une faune en fait qui s'était développée autour de ces cheminées. En sachant que bon, le point de vaporisation de l'eau à ces profondeurs est de l'ordre de 200 ou 250 degrés, on est loin des 100 degrés qui semble être une limite mais à la pression atmosphérique ambiante. Mais à ces profondeurs-là, cette limite est effectivement très, très déplacée. Donc on a bien un phénomène qui unit à la fois la température et la pression. Donc la pression permettant de maintenir l'eau liquide à une beaucoup plus grande température. Mais surtout, on a des organismes relativement sophistiqués, des vertébrés même.
Oui.
Donc je voulais savoir quelle était un peu l'adaptation des vertébrés justement à ce type de conditions.
Oui.
Parce que là, on est loin des archées.
Oui. Mais là, effectivement, et j'ai mentionné tout à l'heure, la première fois qu'on a découvert ces sources hydrothermales, on repérait, justement, c'est pour ça qu'on parle des oasis de vie, on repérait des grandes colonies des animaux. Alors, ce qui est très important, mais ces organismes-là, ces animaux, ne sont pas hyperthermophiles. Certains peuvent être légèrement thermophiles. Il y a quelques vers, comme Alvinella pompeiana, qui se développent vraiment sur les parois des cheminées. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que l'eau, à grande profondeur et à 2 degrés, parfois elle est à 1,8 degrés, elle est très très froide. Le fluide il est très très chaud. Il y a un gradient qui est très fort des températures et en quelques centimètres, mais en 2-3 centimètres, on change des températures. Donc on a 350 degrés d'un côté et on a 2 degrés de l'autre. Et les animaux se développent dans les parties modéré, au plus 30-40 degrés de ces gradients, mais n'arrivent pas à vivre dans des conditions hyperthermophiles. Et donc là, en plus, on voit le gradient, il y a des animaux qui se placent. C'est en quelque sorte concentré qu'on a une cheminée qui émet le fluide, et autour, on va voir des faunes qui sont de moins en moins thermophiles. Les organismes, les animaux qui se développent dans ces sources-là, les plus thermophiles correspondent à des vers, c'est des annélides polychètes, c'est des Alvinella pompeiana qui vivent sur les parois de ces cheminées. On pense que, mais ils doivent vivre aux alentours de 35-40 degrés, c'est thermophile modéré, c'est pas hyper thermophile. On pense qu'ils peuvent résister de chocs thermiques plus importants, mais résister. Mais ce qu'on a fait, c'est in vitro extraire les protéines de ces animaux et voir à quelle température, quelle est la température optimale de fonctionnement de ces protéines. Et c'est des protéines qui vivent, qui marchent optimalement à 37 degrés. Donc, c'est des organismes qui sont bien comme nous, mésophiles, thermophiles modérés, peut-être 40 degrés, comme dans le sud de l'Espagne.
Qu'est-ce qui différencie les archées des eubactéries?
Ce sont des prokaryotes également, qui n'ont pas un noyau membraneux qui contient le matériel génétique. Ce qui les différencie, c'est les séquences des molécules, basiquement. Une histoire évolutive différente. Et les contenus en gènes aussi. Maintenant qu'on a, on a pu séquencer des génomes entiers, on a vu qu'il y a certains gènes chez ces organismes qui sont beaucoup plus proches des gènes chez nous, chez les eucaryotes. En fait, les archées, les systèmes moléculaires, la machinerie moléculaire qui est vraiment au cœur de la cellule, qui est la réplication de l'ADN, la transcription de l'ADN vers l'ARN messager et la traduction de cet ARN messager vers les protéines impliquées dans ces trois processus sont beaucoup plus similaires à celles qu'on a aux eucaryotes qu'à celles des bactéries. Donc, c'est au niveau de la biologie moléculaire de ces organismes qui est en quelque sorte intermédiaire, je dis en quelque sorte, parce qu'il y a des choses spécifiques des archées, intermédiaires entre les eucaryotes d'une part et les bactéries d'autre part. Elles ressemblent aux bactéries par la morphologie et par le mode de division, mais par sa biologie moléculaire, elles se ressemblent beaucoup plus à nous.
D'après ce que vous dites, on peut dire que les extrêmes morphiles sont plus anciens que nous, les hommes ou les poissons, qui sont des êtres plus évolués. Mais avec la pollution, on crée des nouveaux milieux qui sont en quelque sorte extrêmes, qui favorisent ces ancêtres, on peut dire comme ça. Dans ce cas, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de voir que les êtres évolués adaptent moins bien que les êtres ancêtres?
Oui. La seule chose, c'est que les extrémophiles sont des organismes adaptés à vivre dans des conditions extrêmes. Certains de ces extrémophiles ont pu être adaptés à des conditions extrêmes, comme les sources hydrothermales sous-marines, depuis très longtemps. Mais d'autres ont pu s'adapter beaucoup plus récemment. Ce qui est important à considérer est que tous les organismes qu'on trouve aujourd'hui dans la nature, qu'ils soient extrémophiles ou pas, sont également évolués. Il n'y a pas des organismes qui soient plus primitifs que d'autres à l'heure actuelle. On a tous évolué jusqu'au même niveau. Donc dans ce sens-là, les extrémophiles ne sont pas plus ancestraux ou ne sont pas plus primitifs. Ils sont simplement adaptés à leur milieu comme nous, on est adaptés à notre milieu. Maintenant, si on crée des conditions particulières qui nous semblent extrêmes, avec la pollution, etc., il y aura bien sûr des organismes qui vont s'adapter à travailler pour ces conditions-là. Parce que dès que une nouvelle niche écologique s'ouvre, il y a toujours des organismes qui vont venir la coloniser. Et là, on voit ça avec, par exemple, les marées noires, dès qu'il y a des grands agents polluants qui sont présents, on va trouver des bactéries qui vont s'adapter pour dégrader ces composés. Et si elles n'ont pas la capacité, elles vont peut-être acquérir ces capacités d'autres voisines, justement grâce au transfert de gènes. Les activités métaboliques, le gène qu'on a pour des activités métaboliques de ce type, des dégradations de composés très bizarres qu'on peut inventer nous-mêmes, est souvent très facilement transmise. Donc, c'est des caractères qui se transmettent facilement, comme la résistance aux antibiotiques, d'autre part, dans d'autres types de bactéries.
Merci, Madame Lopez-Garcia. Merci.